Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape a reçu ce jeudi en audience le catholicos de tous les Arméniens, Karekin II. Il a évoqué la souffrance du peuple arménien au cours du siècle dernier et s'est attardé sur le sens de l'œcuménisme du martyr, chemin vers l'unité. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège appelle à la libération des jeunes filles récemment enlevées par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. Le père Federico Lombardi a fermement condamné cette prise d'otage. Le sort des chrétiens de Syrie était ce jeudi au centre de discussion à Genève lors d'une conférence qui a réuni 7 hauts responsables des communautés chrétiennes du pays. Vous entendrez l'archevêque métropolitain Melkite de Bosra Oran. Bienvenue dans ce magazine. C'est une grâce spéciale de pouvoir se rencontrer près de la tombe de l'apôtre Pierre et de partager un moment de fraternité et de prière. C'est avec ces mots que le pape François a accueilli ce jeudi matin le patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, Karekin II. Dans son discours, le Saint-Père s'est attardé sur les liens qui unissent l'Église apostolique arménienne et l'Église de Rome, évoquant l'œcuménisme du martyr, chemin de réconciliation. Jean-Baptiste Cocagne.
Les fils de la nation arménienne ont une place d'honneur dans le martyrologe du XXe siècle, et leur témoignage tragique ne doit pas être oublié. Le pape François a insisté dans son discours sur les souffrances subies par les chrétiens, et en particulier le peuple arménien au cours de ces dernières décennies. Des souffrances, a-t-il précisé, qui ont aussi apporté une contribution unique et inestimable pour la cause de l'unité entre les disciples du Christ. Tout comme dans l'Église antique, où le sang des martyrs est devenu la semence des nouveaux chrétiens, aujourd'hui, le sang de beaucoup de chrétiens est devenu la semence de l'unité. L'œcuménisme de la souffrance et du martyr, l'œcuménisme du sang, souligne le Saint-Père, est un puissant rappel à cheminer ensemble sur la voie de la réconciliation entre les églises, avec détermination et un abandon confiant en l'action de l'Esprit. Nous avons aussi le devoir d'emprunter cette voie par dette de gratitude que nous avons envers la souffrance de tant de nos frères, une souffrance devenue salvatrice parce qu'unie à la passion du Christ. Le pape François a ainsi remercié Karekin II pour son soutien effectif au dialogue œcuménique et pour sa présence au Vatican à différentes occasions. Il a également évoqué les liens entre les deux églises, des liens consolidés ces dernières années, notamment grâce à la rencontre au Vatican entre le patriarche suprême et Benoît XVI, c'était en 2008, et grâce aussi au voyage de Jean-Paul II en Arménie 7 ans auparavant. « Prions les uns pour les autres », a conclu le Saint-Père, « puisse l'Esprit-Saint nous éclairer et nous guider vers le jour tant désiré, au cours duquel nous pourrons partager la même table eucharistique. »
Le pape recevra ce vendredi matin au Vatican une délégation des responsables des agences des Nations Unies, emmenée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Si ce dernier avait déjà rencontré le pape François le 9 avril 2013, peu après son élection, c'est la première fois qu'une telle rencontre a lieu avec une délégation de près de 70 personnes. L'occasion de revenir sur des thématiques à la fois chères au Saint-Siège et aux Nations Unies, comme les conflits oubliés et les situations humanitaires critiques. Le nouveau porte-parole du secrétaire général de l'ONU est un Français, Stéphane Dujarric. En visite dans nos studios, il s'attarde sur les attentes de l'ONU quant à cette rencontre avec le pape.
Je crois que le secrétaire général, les Nations Unies et le Vatican et le pape François partagent beaucoup les mêmes soucis sur l'inégalité, sur les souffrances oubliées. Nous n'avons pas les mêmes positions, bien sûr, sur d'autres dossiers, mais je crois sur l'inégalité, sur la lutte contre la pauvreté, je crois que le secrétaire général et le Saint-Père partagent les mêmes idées et ont une vue un peu similaire de la problématique. Et on voit que, surtout sur les questions, le gouffre entre les riches et les pauvres, pour parler simplement, n'arrête pas de s'accroître. Et il est impossible, du moment que ce gouffre continue, il est très très difficile de s'engager vers un développement durable. Et ce gouffre économique est aussi un des problèmes qui souvent mène à des conflits armés et à des révoltes civiles et à des guerres civiles.
La voix forte du pape qui dénonçait la mondialisation de l'indifférence, c'est quelque chose qui a porté, c'est une voix qui a été entendue parmi les agents des Nations Unies.
Oui, tout à fait. Je crois que bien sûr les appels du pape François et justement ces paroles très simples et directes sont très bien reçues au sein des Nations Unies, car nous travaillons nous-mêmes sur ce problème depuis des décennies, depuis des années, et je crois que ça a eu un très très bon écho au sein des Nations Unies.
Et vous avez l'espoir de voir le pape François se rendre un jour peut-être à New York?
Nous l'attendons avec impatience. Nous avons eu la visite il y a quelques années de son prédécesseur et je sais que le secrétaire général serait vraiment ravi de pouvoir accueillir le pape François à New York lors d'une assemblée générale des Nations Unies.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, interrogé par Olivier Bonnel. Du Saint-Siège a fermement condamné l'enlèvement de plus de 200 jeunes filles par le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria. Interrogé par des journalistes, le père Fedele Colombardi a dit s'unir aux nombreux appels pour réclamer leur libération. La négation de tout respect pour la vie, pour la dignité des personnes, y compris les plus innocentes, vulnérables et sans défense, exige une condamnation extrêmement ferme. Elle suscite une compassion pleine de tristesse pour les victimes, de l'horreur pour les souffrances physiques et spirituelles, les humiliations incroyables qui leur sont infligées, a-t-il déclaré, soulignant que cet enlèvement vient s'ajouter aux autres formes horribles de violence qui caractérisent depuis longtemps l'activité du groupe Boko Haram au Nigeria. S'exprimant en début de semaine sur nos ondes, l'archevêque d'Abuja, le cardinal John Onyekan, avait lancé un appel pour que des mesures concrètes soient prises afin de sauver les jeunes filles, qualifiant dompteuses l'incapacité de son pays à les retrouver. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a lui aussi réclamé leur libération immédiate, qualifiant l'enlèvement d'acte atroce et injustifiable. Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a accueilli ce jeudi la présidence des affaires religieuses de la Turquie pour une réunion visant à explorer les possibilités de collaboration entre les deux organismes à l'étude depuis 2002. Dans un communiqué, le dicaster indique que cette importante réunion offre l'opportunité d'approfondir la connaissance mutuelle et permet d'évaluer d'ultérieures perspectives de dialogue. Il rappelle également qu'en 2012 et 2013, le secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux s'était rendu en Turquie pour relancer la proposition et définir les termes formels d'une collaboration entre les deux organismes. Pontificale pour la famille et Caritas Italie ont lancé un nouvel appel réclamant la paix pour les familles syriennes, un dialogue entre les différentes parties et la liberté pour tous les otages. Tous deux poursuivent leur engagement à travers des actions concrètes pour venir en aide à la population et pour soutenir le travail de Caritas Syrie malgré les nombreuses difficultés liées au climat de violence. Ce message sera diffusé dans une vidéo projetée au Salon international du livre de Turin en Italie, qui a ouvert ses portes ce jeudi et dont le Saint-Siège est l'invité d'honneur. Les chrétiens de Syrie, leur situation, leur détresse, leur perspective, leur mission, autant de problématiques soulevées ce jeudi à Genève lors d'une conférence consacrée à cette question douloureuse et qui a vu la participation de 7 hauts responsables des communautés chrétiennes de Syrie. Les évêques l'affirment, l'un des enjeux cruciaux pour les églises chrétiennes est de réussir à surmonter les vieux antagonismes et les vieilles querelles doctrinales pour réussir à parler d'une seule et même voix. La gravité fait, de la situation l'exige. Écoutez Monseigneur Nicolas Antiba, archevêque métropolitain melkite de Bosra Oran, au sud de la Syrie.
Là où je suis, on est pour le moment en sécurité. On est protégé, je dirais, avant tout par Dieu. Et donc, dans le village où je me trouve, c'est Khabab. Donc, la situation est sous contrôle de l'armée. Mais ce que ne veut pas dire qu'on est complètement paix, puisqu'on entend tout autour de nous des bombardements ou bien des attaques et même des enlèvements sur l'autoroute qui passe tout près aussi du village. Comme tout le monde le sait, après 4h30, 5h, tout le monde se rend à la maison parce qu'on a toujours peur des enlèvements qui se font par les hommes armés qui sont en train de mettre la peur et la haine dans le cœur des gens.
Et Monseigneur, que vous disent vos fidèles? Quels sont les sentiments qui les animent en ce moment?
Et pour le moment, ils ont peur et malheureusement, ceux qui peuvent échapper belle, eh bien, ils essayent de parler avec soit des gens de leur famille qui se trouvent soit en Europe, soit n'importe où pour pouvoir quitter le pays, malheureusement. Mais ceux qui ne peuvent pas, donc, ils se trouvent là pour que nous puissions aussi les aider pour pouvoir qu'ils restent. Et la situation n'est pas vraiment très claire et difficile. Parce que je sais, par exemple, mon prédécesseur qui vit toujours avec moi dans le diocèse et dans l'évêché joue parfois le médiateur entre ceux qui enlèvent et ceux qui kidnappent et bien les autres qui ne font que demander de l'argent pour pouvoir faire retourner ceux qui sont enlevés.
Il y aura une élection présidentielle le 3 juin prochain. Qu'attendez-vous de cette élection?
Eh bien, quand il y a une élection, il faut élire, voilà. Donc, il y a des personnes qui se sont présentées pour les élections. Alors, il faudrait laisser les gens élire celui en qui ils ont beaucoup plus confiance qu'en d'autres personnes.
Quel est, selon vous, l'impératif pour les chrétiens de Syrie aujourd'hui, en l'état actuel des choses?
Eh bien, ce que nous faisons, ce que nous espérons, c'est un message avant tout de réconciliation et c'est un message d'espoir que nous donnons à nos gens et à tous les Syriens. Nous sommes avant tout des Syriens, nous ne sommes pas donc des chrétiens ou des musulmans, nous sommes des Syriens pour qui la Syrie est notre pays, c'est une terre où nous avons vécu et nous continuons à vivre. Et puis, comme vous le savez, lorsque le Saint-Pape Jean-Paul II est venu en Syrie, eh bien, lui-même aussi a repris cette formule que la Syrie est vraiment est le berceau du christianisme. Donc, nous chrétiens, nous vivons, nous donnons cet esprit d'espoir pour se réconcilier entre nous et pour que nous puissions continuer à vivre d'une manière selon vraiment nos valeurs humaines et chrétiennes.
Les chrétiens doivent donc parler d'une seule voix.
Pas seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans. Tous les Syriens, sans exception. Parce que quand on est syrien, on est musulman, on est chrétien, on est alawite, on est sunnite, on est n'importe quoi. Mais on est syrien avant tout.
Des propos recueillis par Manuela Afigi. L'intimidation à l'encontre des chrétiens se poursuit en Israël. À moins de 3 semaines de la visite du pape François en Terre Sainte, un nouvel acte de vandalisme antichrétien a été commis sur un bâtiment appartenant au Saint-Siège. Le site du patriarcat latin de Jérusalem indique que lundi dernier, une autre menace, mort aux Arabes, aux chrétiens et à tous ceux qui haïssent Israël, a été taguée devant le bureau de l'Assemblée des évêques à Notre-Dame de Jérusalem. Inquiets, les chefs de toutes les églises en Terre Sainte crainte se mobilisent. Ils sont en train de préparer une série d'actions visant à informer l'opinion publique locale et internationale et à mettre les autorités et les forces de l'ordre devant leurs responsabilités. Ces derniers jours, des enquêtes policières ont été ouvertes, plusieurs jeunes ont été arrêtés et les autorités israéliennes ont pris la parole. La ministre de la Justice, Tzipi Livni, a ainsi proposé de traiter les exactions des colons et extrémistes juifs comme des actes terroristes. Centre pastoral pour les migrants a ouvert ses portes à Tel Aviv. Les chrétiens migrants peuvent compter sur la communauté catholique en Terre Sainte et l'Église sera toujours à leur côté dans la défense de leurs droits fondamentaux. Ce sont les paroles du patriarche latin de Jérusalem, Mgr Foitoil, lors de l'inauguration de ce centre situé au cœur d'un quartier pauvre dans le sud de la ville. Des milliers d'immigrants catholiques vivent à Tel Aviv, des Philippins, des Sri Lankais, des Éthiopiens, des Érythréens, des Indiens, mais également des Soudanais. Il y a encore 3 mois, un abri anti-aérien loué à prix d'or leur servait encore de chapelle. Grâce à l'aide de très généreux donateurs, une maison a été acquise par la pastorale des migrants du diocèse. Après d'importants travaux, le centre permet d'accueillir tous les samedis et dimanches les fidèles pour les messes et les cours de catéchisme. Il sert aussi de maison à 4 sœurs qui vivent auprès des migrants. Nous en parlons avec le père David Neos, vicaire du patriarcat latin pour les catholiques de langue hébraïque et responsable de la pastorale des migrants en Israël.
Les migrants sont de 2 types, principalement. Les migrants qui viennent pour le travail et les migrants qui cherchent ici l'asile politique. Tous les deux sont contraints à vivre en milieu hébraïophone, juif, israélien. Ceux qui deviennent très vite hébraïophones sont les enfants avec lesquels nous travaillons beaucoup pour assurer la transmission de la foi, parce qu'ils sont tous intégrés dans une société juive laïque. Et notre travail est d'organiser la vie religieuse, la vie du culte de ces communautés, mais aussi de vivre avec eux dans le milieu dans lequel ils vivent. Ils vivent dans une grande pauvreté, dans une précarité sociale et économique, dans une zone, et ici c'est le centre de ce monde de la migration, à Tel Aviv. À Tel Aviv est le centre du pays du point de vue commercial, économique, culturel, social. Et dans les quartiers pauvres du sud, là, il y a des dizaines de milliers de migrants. Et l'Église, jusqu'à maintenant, a été un peu absente. Maintenant, nous avons un vrai centre pour ces migrants et ceux qui sont catholiques, mais bien sûr, c'est une présence au milieu de ce monde, n'importe quelle est l'identité religieuse de ces migrants.
De quelle nationalité sont surtout ces migrants? Je crois que la plupart sont philippins.
Les philippins sont un très grand groupe, mais il y a beaucoup d'érythréens et des Indiens, des Sri Lankais, beaucoup d'Asiatiques et beaucoup d'Africains, mais aussi des gens de l'Europe de l'Est, de l'Amérique latine. Nous avons aujourd'hui un groupe de autour 150 000 migrants chrétiens, et parmi ces migrants, il y a autour de 60 à 70 000 Romains catholiques. Ah, pas tous à Tel Aviv, bien sûr, dispersés dans tous les pays, mais comme je disais, Tel Aviv, c'est vraiment le centre.
Des propos recueillis par Bernard de Cotigny. Mettez fin aux attaques et arrêtez d'utiliser les armes contre vos frères. C'est le cri lancé par le métropolite Onufre de l'église orthodoxe de Kiev, lié au patriarcat de Moscou, face à la situation dramatique en Ukraine. Une société ne peut être construite sur la violence et l'agression, et aucune idée politique ne justifie l'effusion de sang. Dans le même esprit, l'église gréco-catholique ukrainienne a elle aussi adressé des paroles de paix et invité les institutions et la société, dans la perspective des élections présidentielles du 25 mai prochain, à rester unis. Elle exhorte également les candidats à agir de façon honnête, transparente et responsable et à présenter un véritable programme de réforme. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité.